J'avais l'intention de commencer une série de prédications sur le livre d'Ecclésiaste. Et Dieu voulant, je le ferai au Nouvel An. Mais en regardant cela, je me suis aperçu que je n'étais pas vraiment en mesure de commencer ça avant Noël, que ce serait trop entrecoupé de plein de choses différentes. Et donc nous allons attendre pour étudier ce livre qui parle de manière très foudroyante de ce que nous voyons autour de nous, vanité de vanité, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste, mais il parle beaucoup de joie et il nous amène vers le vrai sens de la vie. C'est un livre extrêmement profond que les gens ont toujours essayé de comprendre, les philosophes aussi bien que les chrétiens. Mais pour le moment, nous allons plutôt nous pencher sur le discours de la chambre haute du Seigneur, c'est-à-dire Jean 13 à 17. Cette deuxième partie de l'évangile de Jean, où donc la nuit avant sa mort, le Seigneur se retire dans l'intimité avec ses disciples. Et nous allons prendre le temps de parcourir, de traverser ces moments en intimité avec Jésus, dans ces heures juste avant la crucifixion. Quel est le contexte? On va lire le passage et vous allez voir au début où nous nous situons lorsque nous nous mettons aujourd'hui à la place des disciples. Verset 1. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui, pour Jésus, de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est comme ça que Jean, qui était là, commence cette description de ce qu'il a vécu avec les autres dans ces heures de cette soirée. Il dit, il les a aimés jusqu'au bout. Pendant le repas, donc le repas de Pâques, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, de le trahir, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, l'univers entier, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura, comme faisaient les esclaves, un habillement d'esclave. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples. Les pieds sales. Nous sommes en Palestine dans le premier siècle. On porte des sandales. Et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Deux mots différents, savoir et comprendre. Tu ne le sais pas, c'est-à-dire ce n'est pas une de ces choses que tu peux savoir juste par l'intuition en le voyant, mais tu comprendras, c'est-à-dire tu arriveras à la connaissance par instruction, parce que c'est profond ce que je suis en train de faire. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. La phrase est très très forte, je vous expliquerai. En grec, il dit, jusqu'à la fin de l'époque, jusqu'à la fin du monde, tu ne me laveras les pieds. C'est typique de Pierre, n'est-ce pas? Il s'exprime de manière très, très violente et irréfléchie parfois. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Simon change de pensée. Alors, Simon lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné, qui a pris un bain, n'a pas besoin de se laver, de prendre un bain. Il utilise deux mots grecs ici pour bain et laver. Un mot qui signifie le bain entier et un mot qui signifie laver comme laver les mains. Donc il dit, celui qui a pris un bain n'a pas besoin de prendre un bain, de se laver, sauf les pieds. Mais, pardon, ça c'est le deuxième mot plutôt. N'a pas besoin de se laver sauf les pieds. Mais il est entièrement pur et vous êtes pur, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait, Judas. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après les avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le maître et le seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Cet incident que Jean et les autres apôtres ont vécu avec Jésus à la fin de leur vie a donné lieu dans certains endroits, dans certaines églises, lieu à un faux sacrement. Je dis faux sacrement parce que ce n'est pas un vrai sacrement de l'église chrétienne, mais certains font le lavement des pieds, comme on fait le baptême et la scène. J'étais dans une église une fois où on faisait le lavement des pieds. Je ne connaissais pas très bien cette église. J'étais là en tant que visiteur quelques fois. Et à ma grande horreur, quand vient le moment pour se laver les pieds, et on devait vraiment se laver les pieds, hein, on a enlevé les chaussures. Et à mon horreur, c'est le pasteur lui-même qui vient s'asseoir à côté de moi pour que je lui lave les pieds. Et il lave mes pieds. C'était embarrassant. Mais je n'avais pas les pieds sales, ni lui, comme ce jour-là en Palestine. Mais l'intention du Seigneur, quand il dit, je vous ai donné un exemple, vous devez vous laver les pieds les uns les autres, il parle de manière métaphorique, bien sûr. Il veut dire, vous devez vous servir les uns aux autres de manière humble et vraiment prendre la place d'un serviteur quand il le faut. Nous le savons parce que la Bible utilise cette phrase laver les pieds des autres dans d'autres versets pour vouloir dire simplement se mettre au service des autres. Si vous voulez laver les pieds de quelqu'un qui a des pieds sales, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais il serait difficile de dire que le Seigneur est en train de fonder un sacrement par lequel vous devez laver les pieds les uns des autres. Je ne crois pas que ce soit son intention. Quel est le contexte? Nous lisons que avant ou au début de la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Nous sommes dans la semaine de Pâques. La fête juive, pas la fête chrétienne, il n'y a pas de fête chrétienne encore. C'est le moment où on immole l'agneau de Pâques pour se rappeler de la manière comment Dieu a délivré son peuple au moment de l'Exode. On a immolé cet agneau, on a pris le sang, on l'a aspergé sur les linteaux de la porte. Et vous vous rappelez de toute cette histoire. Nous sommes probablement le jeudi soir. Nous sommes dans le mois de Nisan. Et demain, c'est le jour où les Juifs doivent immoler leurs agneaux. Et le lendemain, Jésus-Christ sera immolé sur une croix romaine. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de partir de ce monde, c'est un euphémisme, partir de ce monde, c'est son heure de mourir immolé sur une croix infâme. Parce que c'est la seule manière dont il peut aller retourner, et attention, la seule manière dont Jésus peut retourner au Père et nous amener avec lui. Plusieurs fois, pendant ces 3 ans, si nous avions été avec lui, nous avons entendu le Sauveur dire: Mon heure n'est pas encore venue. On se souvient de ce moment où les gens voulaient le prendre et le tuer. Et Luc nous dit, mais ils l'ont pas fait parce que son heure n'était pas encore venue. Mais l'atmosphère est lourde ce soir dans cette chambre haute parce que, au moins pour lui, il sait que son heure est venue. Le sentiment intime qui l'anime n'est pas pourtant au sujet de lui-même. Parce que quand nous lisons le texte, nous lisons, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, je traduis, il mit le comble à son amour pour eux. Jean veut nous faire sentir que Jésus est en train de penser au fait qu'il va au Père et quitte ce monde en laissant ceux qu'il aime tellement dans ce bas monde difficile. Et tout au long de ces chapitres 13, 14, 16, 17, vous allez voir tout le discours est en train de leur préparer pour le moment où il n'est plus avec eux. Comment vivre en chrétien quand le Christ est physiquement parti, quand le Sauveur n'est plus physiquement là? Il y a quelque chose qui retient le cœur de Jésus et il ne pense pas à lui-même. C'est époustouflant. Il pense à ses disciples. Et tout le discours, c'est comme s'il oublie qu'il est en train d'aller vers le calvaire dans quelques heures. Et il les aime, il les a aimés, il les aime, il va les aimer jusqu'au bout. Et le mot en grec qui signifie jusqu'au bout ne signifie pas jusqu'à la fin ici, mais jusqu'au comble, jusqu'à l'extrême. Parce que Jean pense à cette soirée et il dit, on savait qu'il nous aimait, mais ce soir-là, on a compris qu'il nous a aimés à l'extrême. Car il a enlevé ses vêtements. Et il s'est mis à la place d'un esclave afin de nous laver les pieds sales. En nous faisant par là une parabole de ce qui allait se passer dans quelques heures sur une croix. Où on va lui enlever ses vêtements. Et il va faire le nécessaire pour nous laver, mais en descendant tellement bas. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler ici dans ce passage? Il veut nous révéler quelque chose au sujet de lui-même, de Dieu, du salut et de la vie que nous devons mener en tant que chrétiens, la forme de cette vie. Et nous allons essayer de les comprendre. D'abord, qu'est-ce que Dieu veut nous révéler au sujet de lui-même? Le texte nous dit que, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima. Qui a-t-il aimé? Les siens. Nous l'avons vu aimer le monde lorsqu'il est sur la colline, juste il y a quelques jours au-dessus de Jérusalem, et il pleure amèrement. Et il dit, si seulement Jérusalem, Jérusalem, il est en train de sangloter, homme adulte, devant ses disciples, pleurer sur Jérusalem. Si seulement vous saviez, vous qui persécutez les prophètes et qui envoient ceux que Dieu vous envoie, qui renvoie Dieu, ce que Dieu vous donne comme prophète, si seulement vous saviez combien de fois j'ai voulu vous prendre comme une poule prend ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc on l'a vu, son amour pour le monde, mais Jean ne parle pas de ça ici. Il parle de son amour pour les siens. Et je vous aime tous, mais j'aime ma femme d'une manière particulière. Et cet amour, je ne l'ai pas pour vous. C'est comme ça. Et le texte nous dit, Jésus qui avait aimé les siens, qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Nous allons donc voir une révélation au sujet de l'amour de Dieu ici. Je veux juste vous parler des lavements de pieds. Laver les pieds, c'est un geste aussi courant dans le premier siècle que brosser les dents pour nous. D'accord? Vous devez le faire tous les jours et probablement plusieurs fois par jour. Parce que vous portez des sandales et vous marchez en Palestine. Il y a beaucoup de poussière et quand vous entrez, surtout pour un repas, il n'y a pas de chaise. Vous ne pouvez pas cacher les pieds sous la chaise. On mange à moitié assis, à moitié allongés, en étroite proximité les uns avec les autres, souvent touchant l'autre. Même dans ce repas, à un moment donné, vous allez lire dans l'évangile que Jean était penché sur le sein de Jésus, sur la poitrine de Jésus. Tes pieds vont toucher les autres à un moment donné, pendant le repas. Et donc, nous pouvons comprendre que Jésus reproche le pharisien qui l'invite à manger un jour, et il dit, Simon, pardon, je l'ai écrit là quelque part. En tout cas, ce pharisien Simon, il dit, Simon, je suis entré dans ta maison, et tu m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. C'est le geste d'hospitalité la plus basique. De permettre à quelqu'un de laver les pieds. Et comment est-ce que ça se faisait? Lorsque nous lisons la littérature de l'Antiquité, nous comprenons qu'au moins en Israël, parfois on se lave les pieds soi-même. Notre hôte nous donne un bassin et on se lave les pieds. Mais très souvent, c'est un serviteur, un esclave dans la maison qui lave les pieds de tout le monde. Et certains juifs, on a trouvé dans certains documents d'Antiquité que certains juifs pensaient qu'il était que même un serviteur ou un esclave juif, quelqu'un qui a dû se vendre en esclavage ou en servitude pour payer des dettes, qu'un serviteur juif ne devait pas laver les pieds de quelqu'un. Que c'était un acte tellement bas que seulement les esclaves non juifs païens devait laver les pieds. Parfois, c'était un enfant de la maison qui lavait les pieds des invités. Et, excusez-moi, mesdames, c'est comme ça. Parfois, c'était la femme de la maison. C'était la culture avec toutes ses faiblesses, ses fautes. Mais en tout cas, ça se passait comme ça. Et nous sommes arrivés ce soir-là, parce que nous sommes parmi ses disciples, n'est-ce pas? Et au moment de s'asseoir, une dispute s'élève entre nous. C'est Luc qui nous le dit dans son évangile. Il dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. C'est comme ça que la soirée commence. C'est logique parce que quand on arrive dans cette salle où ils n'ont jamais mangé, La table est là et qui va s'asseoir où? N'est-ce pas? Ça commence comme ça. Je ne pense pas que ce soit ta place là à côté de Jésus. Après tous ces moi et Jacques et Jean que Jésus a demandé d'aller avec lui pour voir cette fille ressuscitée, si nous sommes les seuls qu'il a amenés. Mais écoute, je viens de chasser des démons avec Jésus dans telle ville, tu n'étais même pas là. Et en tout cas, la conversation à voix basse, parce que on veut pas que Jésus entende tout cela quand même. Non, c'est pas toi. C'est comme ça que cette belle soirée commence. Et ça veut dire aussi que il y a un bassin, il y a de l'eau, tout est prêt dans cette salle, mais personne ne se met à la place du serviteur pour laver les pieds de tout le monde. Et tout le monde attend que quelqu'un d'autre le fasse apparemment. Parce que le repas commence, on est déjà à table et personne n'a lavé les pieds. Et donc nous lisons dans le texte que Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura comme un esclave. C'est l'habillement d'un esclave. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds sales des disciples, à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Et Jean nous rapporte ça dans tous les détails douloureux à entendre. Si nous pouvons nous mettre devant l'esprit cette scène. Combien vous êtes embarrassés maintenant que ce soit Jésus qui prenne cette place. Mais Jean a quelque chose de plus profond dans sa tête. Lorsque Jésus le faisait au moment même, il le faisait dans la conscience que le Dieu éternel avait remis l'univers entier entre ses mains parce qu'il est le Fils transcendant. Il est conscient qu'il est venu de Dieu, du ciel, d'une existence transcendante et glorieuse, qui est lui-même sa vie, et qu'il retourne à Dieu dans le triomphe. Et très conscient de tout cela, il prend la place d'un esclave. Maintenant, il y a des commentateurs qui disent que nous devons comprendre ceci. Jésus, conscient qu'il était divin, qu'il était glorieux, malgré cela, il se met à la place d'un esclave pour nous. Probablement, c'est exactement le contraire. Jean veut que nous comprenions que c'est parce qu'il est divinement glorieux qu'il agit comme ça. Parce que des pauvres hommes pécheurs ne le font pas. Il est en train de nous montrer la divinité, la grandeur. Les ayant aimés, maintenant, il manifeste son amour jusqu'à son extrême divin. Et il y a un pasteur chrétien du 5e siècle, il s'appelait Sévérien de Gabala. Il a écrit vers l'année 400, vers le temps d'Augustin, et il dit ceci: celui qui enveloppe le ciel dans les nuages s'enroule autour d'une serviette. Celui qui verse de l'eau dans les anciens, dans les océans et les rivières verse de l'eau dans un bassin d'esclaves. Et celui devant qui chaque genou se plie au ciel, sur la terre et sous la terre, s'agenouille pour laver les pieds de ses disciples. C'est ça qui s'est passé ce soir-là. Jésus, sachant que Dieu avait tout remis entre ses mains, ôta ses vêtements. Et cette image qu'on avait de Dieu dans l'Antiquité, investie de beaucoup de pensées d'omnipotence, n'est-ce pas, de puissance, est éclatée par Jésus, non pas parce qu'il n'est pas omnipotent, mais parce que Dieu révèle, Jésus révèle maintenant qu'il est le Dieu qui s'abaisse, qui aime jusqu'à tout sacrifier, à prendre une place tellement basse pour nous. C'est comme ça que votre Sauveur est avec vous. Il ne change pas. Même s'il est dans la gloire, il n'a plus besoin de s'abaisser. C'est son cœur envers son peuple. Et écoutez bien, je suis convaincu que toute la clé de ce passage et cet incident, c'est dans ces paroles que Jean ne cesse de répéter, Jésus sachant que Judas allait le trahir, il lave les pieds de Judas. Judas est encore là en ce moment où il va partir, mais le texte nous dit, sachant que son heure était venue de partir, sachant que Dieu avait tout remis dans ses mains, sachant qu'il retournait à Dieu, laissant les disciples dans le monde et inquiet pour leur bien-être. Je crois que la clé pour comprendre ça, c'est ceci. Imaginez-vous sans cet incident. Le Seigneur part et vous comme moi, on pêche, n'est-ce pas? On se salit les pieds spirituellement en allant dans ce monde parce que nous allons voir que c'est ça la parabole que Jésus en fait. Et comment est-ce que le Seigneur va être avec nous? Il n'est pas là, on ne peut pas savoir en le voyant. Comment est-ce qu'il va être avec nous dans cette vie chrétienne sans lui physiquement lorsque nous péchons à répétition? Et Jésus montre de manière concrète et inoubliable cette soirée où on commence en se disputant avec orgueil sur notre grandeur, au lieu de quitter la chambre, la salle, et nous laisser, Jésus fait exactement le contraire. Il se ceint de cette serviette d'esclave et il nous lave les pieds. C'est absolument incroyable. Donc, une révélation au sujet de l'amour inconcevable de notre Sauveur envers nous. Tel que nous sommes, dans notre saleté. Deuxièmement, une révélation au sujet du salut, la purification. Remarquez que Jésus commence à est en train d'agir sur deux niveaux. Remarquez au verset 6 et 7, on lit ceci. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, Seigneur, toi tu me laverais les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne sais pas maintenant, mais tu comprendras dans la suite. C'est-à-dire, c'est une action symbolique. C'est une action vraie, je te lave les pieds qui sont sales, mais c'est aussi un symbole d'une autre action que je fais pour toi, qui ne concerne pas tes pieds, mais la saleté de ton cœur, ton orgueil, tes mensonges, ton égoïsme, ta manière d'être têtu contre Dieu et sa sagesse et son amour, tes jalousies, tes immoralités. Regardez le verset 8 aussi. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laverais les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Le mot part, c'est le mot qui est utilisé souvent pour héritage. Jésus est en train de parler de l'éternité. Tu n'as pas de part avec moi dans l'éternité si je ne suis pas celui qui te lave et te lave à répétition. Vous voyez le double niveau de cette action? Et troisièmement, dans le verset 9 et 10, nous lisons, Simon-Pierre lui dit, alors, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver sauf les pieds. Maintenant, Jésus importe une autre idée. Il y a deux sortes de purification que le Seigneur vous donne en tant que chrétien. Faut jamais les confondre. Simon, ne confond pas. On peut jamais répéter le bain qui se fait une seule fois et qui est permanente. Et on va expliquer ça tout à l'heure. Notre besoin d'être lavé. Ésaïe dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice, pas nos péchés, les amis, notre justice est comme un vêtement souillé. Vous aimez porter des vêtements souillés? Alors toute votre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu qui est infiniment saint. Un jour, j'étais dans un parc avec Nicky, les enfants, je voulais amener les enfants qui étaient petits pour voir de près des animaux, chèvres, ainsi de suite, qui étaient là. Et nous sommes approchés de la clôture et un bouc s'est précipité vers nous, vers la clôture, et a éternué sur mon visage. Je sais pas que. Et je vous dis, l'odeur m'a presque fait vomir. L'odeur de cet animal et de sa haleine, c'était, franchement, c'était insupportable pour moi. J'ai commencé à éternuer aussi. Mais, chers amis, ce bouc et les animaux autour de lui n'avaient aucune impression de sentir mauvais. N'est-ce pas? Et nous sommes un peu comme ça. Nous avons l'impression que je ne suis pas un mauvais gars. Je fais pas des grosses bêtises. Et nous ne comprenons pas à quel point, devant le Dieu Saint, nous sentons mal. Nous avons les pieds sales. Pas comme avant. Attention, nous sommes chrétiens. Il y a un grand changement. Mais nous avons besoin d'être lavé pour le Seigneur, jusqu'au point où il dit, si je ne vous lave pas les pieds, même si c'est juste les pieds qui sont sales, vous n'aurez aucune part avec moi. Même la saleté de vos pieds, même vos péchés chrétiens, si je ne les lavais plus, pourrait vous séparer de la vie éternelle. Donc ça, c'est un article de foi. Je ne le sens pas comme ça. Mais ça, c'est le problème du péché. Le problème, quand tu sens mal, cette mauvaise odeur t'empêche de savoir que tu sens mal. Tu t'habitues jusqu'à ce que ce soit normal pour toi. La voie de purification. Nous apprenons, et je tire vers la fin, nous apprenons d'abord qu'il y a une seule manière pour vous d'être purifié, une seule. Car Jésus vient laver les pieds des disciples et il dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as aucune part avec moi. La question est en grec est emphatique. Pierre lui dit, toi, ce serait toi qui me laverais moi les pieds? Il veut changer les choses un peu. Et Jésus dit, si c'est pas moi qui te lave les pieds, tu es fichu. Pour ainsi dire, devant Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas votre purificateur, vous ne pouvez pas tenir devant Dieu. Et deuxièmement, seulement une source Jésus, mais seulement une manière dont Jésus peut vous purifier. Il ne peut que le faire en enlevant sa gloire, comme il a enlevé ses robes, descendre Prendre la place d'un esclave, la forme d'un esclave, c'est ce qu'il a fait en venant du ciel. Et en fait, ce lavement des pieds, Jésus est en train de nous donner une image de tout le salut depuis son incarnation jusqu'à son retour au Père. Vous l'avez vu? Sachant qu'il était de Dieu, il enlève sa robe, il prend une forme d'esclave, il lave les pieds, c'est la croix. Et puis, il remet ses vêtements et il se met à table et il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Et vous avez raison. Quelle image de tout le salut. Mais il y a une seule manière dont le Seigneur lui-même peut nous laver, et ça, c'est l'ignominie, la honte de la croix. Cette honte devoir laver les pieds sales, c'est à la croix qu'il le vit à l'extrême. Et pour Pierre, qui ne peut pas imaginer que Jésus lui lave les pieds, comment est-ce qu'il va imaginer le lendemain? Tellement loin du compte. Nous sommes tellement aveugles, tellement bêtes. N'est-ce pas? S'il dit, non, 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 tu ne peux pas me laver les pieds. Oh Pierre, si tu savais, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je vais devoir aller beaucoup plus loin que ça dans quelques heures. J'aurais même pas cette serviette autour de moi et je serais cloué, hissé sur une croix. Et ça aussi, je le ferai de mon initiative, tout comme j'ai pris l'initiative d'aller te laver les pieds. Maintenant, la dernière chose au sujet de cette purification, c'est qu'il y a deux sortes de purification du chrétien. Jésus dit à Pierre, celui qui a pris un bain n'a pas besoin de laver sauf les pieds. Mais il est entièrement pur et vous êtes entièrement pur. Si vous êtes chrétien, quand vous vous êtes converti, la Bible dit que Dieu vous a justifié. Le mot justifié signifie un verdict légal. Il vous a prononcé dans la Cour suprême sans appel, c'est irrévocable. Une fois pour toutes, il vous a prononcé en règle avec lui. Acquitté, sans aucune culpabilité qui puisse vous mettre dans une situation du rejet ou du condamné. Et cela à cause de Jésus et sa mort sur la croix. Lorsque vous avez mis votre foi en Christ et ce qu'il a fait pour vous sur la croix, Dieu a mis sur votre compte la mort de Jésus. Et maintenant, il vous regarde à travers cette justice de Christ. Et il vous prononce pour toujours en règle, accepté auprès de moi. Mais maintenant, vous êtes chrétien. Vous n'êtes plus quelqu'un de dehors, vous êtes quelqu'un de la famille, embrassé, aimé, accepté par votre Dieu. Mais vous péchez. Vous marchez dans ce monde et vous salissez vos pieds. Est-ce que quand vous péchez, et même parfois gravement, ça veut dire que vous n'êtes plus accepté par Dieu. Dieu ne vous aime plus comme son enfant. Pas du tout. Pierre vient de se disputer qui est le plus grand. Jésus lui lave les pieds et il dit, vous êtes pur. Vous êtes entièrement pur. Vous êtes entièrement acceptable et même la saleté sur vos pieds n'affecte pas le fait que vous êtes entièrement en règle avec moi. Ça, c'est la justification. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Quand vous avez un enfant qui fait le mal, il est toujours l'enfant, n'est-ce pas? Il est toujours aimé, il est toujours embrassé. Et dans ce sens, vous ne péchez pas avec des péchés de haute trahison. Comme avant, vous péchez avec des péchés d'un enfant qui est aimé et accepté, mais qui ne peut pas vivre comme cela. Donc il y a ce lavement d'une fois qui n'est jamais révoqué. Dieu vous aime, il est avec vous, il ne quitte pas la chambre, il vient plutôt vous laver il vous aime, il vous aime jusqu'à l'extrême, oui, même au moment où vous vous disputez pour savoir qui est le plus grand, il vous aime et il vous lave. C'est ça que le Seigneur veut que nous sachions. C'est ça le rapport qu'il a avec nous. Mais il faut qu'il nous lave les pieds. Il insiste. Si je ne te lave pas. Vous ne pouvez pas marcher en tant que chrétien, avoir des attitudes mauvaises vis-à-vis d'un autre chrétien, critique, fâché, sans amour, et puis penser que ça peut continuer comme ça. C'est impossible. Si je ne te lave pas, tu n'as aucune part avec moi. Parce que ce serait le signe que tu n'étais pas un vrai chrétien si tu ne te laisses pas laver par Jésus. Donc nous devons vivre cette expérience de personnes complètement acceptées, aimées dans la maison, mais qui ont besoin de faire attention parce que nous pouvons endommager non pas notre statut avec Dieu, mais notre communion avec Dieu, notre proximité. On ne va pas être mis dehors de la maison, mais on peut perdre l'intimité avec Christ par nos péchés. Et nous devons faire attention parce que nous voulons être proches à lui, fidèles à lui plaire. Et c'est pour cela que le Seigneur nous parle de ce besoin de faire face à nos péchés, de les confesser. Si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1, 9, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous laver de toute impureté. Le Seigneur veut que vous n'ayez aucun doute. Il n'est plus là. Vous ne pouvez pas le voir. Mais il veut que vous sachiez que par rapport à vos péchés qui continuent, il est le Sauveur qui vient vous laver, car il vous aime jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'au comble, jusqu'à l'extrême. Il est là. Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juste. C'est-à-dire, un avocat, c'est qui? Un avocat, c'est quelqu'un qui est de ton côté, n'est-ce pas, dans une affaire. Il est quelqu'un qui se range complètement de ton côté. Et c'est ça, Jésus, dans la chambre. Il est complètement de notre côté pour nous laver nos pieds, pas contre nous à cause de nos pieds. C'est merveilleux. Et c'est ça qu'il veut que nous sachions. Notre communion permanente avec Christ est donc basée, assise sur son service pour nous à la croix. Et son intercession au ciel qui continue à faire valoir ce sacrifice pour nous. Saviez-vous que constamment au ciel, Jésus est en train de se présenter comme notre juge, de paraître devant Dieu pour nous, comme le répondant, comme la justice qui nous pardonne. Il est avocat, rangé de ton côté. Oui, dans cette question de vos péchés. Mais pas pour vous laisser dans les péchés, pour vous en purifier. Que le Seigneur nous aide donc à faire face à nos péchés, honnêtement, justement sachant que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, que nous n'avons pas besoin de courir nous cacher dans les buissons comme Adam et Ève quand nous péchons, que nous pouvons aller tout droit vers le Sauveur et être complètement humble et complètement transparent. Voilà ce que j'ai fait, Seigneur. Lave-moi mes pieds. Cela aussi change notre manière d'être avec les autres, parce que c'est un exemple pour nous de comment nous devons être avec les autres. Le disciple chrétien forme sa vie chrétienne autour de ce principe même de Jésus, la manière dont Jésus s'abaisse pour pardonner, laver, aider les autres qui n'en sont pas dignes, Jésus dit, ça c'est la forme même de la vie chrétienne que vous allez prendre. Waouh! N'est-ce pas? Quand votre mari n'est pas bon, quand il a les pieds sales, quand votre coloc, quand votre enfant, quand votre collègue au travail, n'est-ce pas? Voilà la forme que la vie chrétienne va prendre, que nous tentons d'être comme le Sauveur. Je vous ai donné un exemple. Si moi je vous ai lavé les pieds, est-ce que vous, moi qui suis le Seigneur, est-ce que vous ne pouvez pas vous abaisser pour laver les pieds les uns des autres? Et surtout ça a son application d'abord dans l'Église. Pouf, ça change beaucoup de choses, n'est-ce pas? Un petit incident le soir de la Pâque dans l'intimité de Jésus. Nous allons chanter pour préparer la scène.
Cent soixante-neuf.